case you didn't know. No, no. In case you didn't know. Oh, oh.
Radio de la paix. Il est 12h. Le journal du midi. César Yao.
Bonjour à tous, le sommaire de ce jeudi midi. Le Conseil du coton et de l'anacarde initie en ce moment même dans les zones de production des missions de sensibilisation des acteurs sur l'amélioration et la préservation de la qualité des noix brutes de cajou. Et c'est dans ce sens qu'à Ndéré, localité située à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro, dans le département d'Atiéguakro, que 300 acteurs, producteurs et acheteurs ont été sensibilisés. Les échos dans cette édition. Une ardoise de plus de 35 milliards de francs CFA, c'est le montant dû aux fournisseurs par l'État de Côte d'Ivoire. Selon le président du SINAFESI, Faustin Gray, le gouvernement montre sa volonté de coopérer, mais l'administration entrave et retarde le processus de paiement. Dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo salue la position française sur le M23, mais demande des sanctions contre le Rwanda. Et puis en fin d'édition, Linda Bali recevra le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, qui reviendra sur la récente opération de déguerpissement à Yopougon-Jasco. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Le président de la République Alassane Ouattara a eu un entretien avec l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron hier mercredi au palais de la présidence. Les échanges ont porté entre autres sur la coopération économique et militaire. La Côte d'Ivoire est la première étape de sa tournée sur le continent africain. Sur les détails, écoutons Jean-Marie Bockel au sortir de l'audience.
Nous avons eu avec le président de la République un échange très marquant. Nous avons salué la qualité de la relation avec les autres pays européens ici présents et dans tous les domaines de l'économie, de la relation entre les personnes, universitaires, de projets, y compris au niveau de l'engagement français, des investissements français. Le partenariat militaire et sécuritaire se situe dans ce contexte. Tout le travail qui a déjà été fait sur l'évolution du dispositif, les nouvelles attentes, les nouveaux besoins et nous avons évoqué les perspectives de ce partenariat en matière de sécurité et qui sont des perspectives d'accompagnement du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Et il y a déjà eu un travail qui a été fait, même des conventions qui ont été passées. Donc on se situe bien sûr dans cette dynamique et dans cette continuité. Et sur ces questions-là, nous sommes convenus d'engager un travail qui devra aboutir à un accord. C'est le premier pays dans lequel je me déplace dans le cadre d'une mission d'envoyé personnel du président Macron depuis 2 semaines. Et je viens en Côte d'Ivoire, ça n'est pas par hasard. Donc nous allons poursuivre cette mission et l'esprit, c'est de venir avec des propositions, une écoute sur les enjeux militaires vus dans ce prisme large que j'évoquais tout à l'heure, et ensuite un dialogue en rentrant dans les aspects les plus concrets. C'est l'idée d'arriver à un accord gagnant pour les deux parties.
Voilà, c'était Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire notamment et sur le continent africain. Agriculture à présent, dans l'optique de réaliser une bonne campagne 2024 de commercialisation de l'anacarde, le Conseil du coton et de l'anacarde initie du 19 au 24 février 2024 dans les zones de production des missions de sensibilisation des acteurs sur l'amélioration et la préservation de la qualité des noix brutes de cajou à Nzéré. Localité située à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro dans le département d'Atiéguakro, 300 acteurs, dont 200 producteurs et une centaine d'acheteurs ont été sensibilisés hier mercredi sur le sujet. Témoin pour Radio de la Paix, Emiliao.
Le pari de la production de l'anacarde gagnée reste à la Côte d'Ivoire désormais de relever le défi de la qualité. Une mission que s'assigne depuis 2014, le Conseil du coton et de l'anacarde, représenté à l'occasion par son chef de service suivi évaluation, Kwame Jean-Jacques.
Pour ce qui concerne cette mission, les actions d'amélioration portent d'abord sur les questions d'entretien des plantations. Aussi, nous venons dire aux producteurs qu'il faut faire la séparation avec la ficelle. Sécher les noix sur des clairs. Aussi, nous passons le message sur l'utilisation des pesticides.
Officiellement ouverte ce mercredi 21 février, la campagne 2024 de commercialisation de l'anacarde doit être meilleure et donc de qualité, souhaite
Sanogo Souri, le délégué régional du Conseil du coton de l'anacarde, région de Mourounou, Nizi, Ifouébéli. Le message pour que la campagne soit meilleure, que chaque acteur joue son rôle. Le producteur, mettre sur le marché un produit bien séché et bien trié. L'acheteur, qu'il respecte l'engagement qu'il a signé avec le Conseil coton de l'anacarde.
Améliorer et surtout maintenir les acquis de la qualité doit être l'affaire de tous les acteurs, rappelle Kwaku Martin, directeur régional de l'agriculture de Yamoussoukro.
C'est ensemble que nous devons effectivement réussir cette mission. Je sais que vous êtes venu de presque tous les villages environnants et quand vous serez arrivé, que ce soit un relais, c'est comme une goutte d'eau qu'on a jetée dans une mare et donc que ce soit ainsi.
Fixé ce mercredi 21 février 2024, le prix bord champ pour la campagne 2024 est de 275 francs le kilogramme, soit une baisse de 40 francs par rapport à la campagne précédente. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Oui, filière anacarde, toujours le bilan de la campagne 2023 de commercialisation de la noix de cajou et les perspectives 2024 ont été présentées également hier mercredi par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Kobina Kwasi Agyumani. Il en a profité pour faire un point sur les performances enregistrées au niveau de la transformation nationale. On en parle avec Jean-Claude Mabéa.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières a dressé le bilan de la précédente campagne de commercialisation de la noix brute de cajou. Kobina Kwasi Adjumani.
Nous avons enregistré une production nationale commercialisée de 1 225 935 tonnes contre 1 028 172 tonnes en 2022. Soit une hausse de 19%.
Il s'est également prononcé sur les performances au niveau de la transformation.
Ce sont 28 unités actives qui ont transformé 265 863 tonnes de noix brutes, représentant 22% de la production nationale, contre 224 036 tonnes en 2022.
Et pour la campagne de commercialisation 2024, le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani, a fait des projections.
Les projections de production de noix brutes de cajou au titre de la campagne qui va s'ouvrir sont bonnes. Elles se situent entre 1 250 000 tonnes contre 1 227 935 tonnes en 2023, soit une hausse attendue de 5% par rapport à la production commercialisée en 2023.
Selon lui, la campagne 2024 se déroulera dans un contexte international marqué par la persistance de la crise russo-ukrainienne dont les effets sont aujourd'hui aggravés par le conflit Israël et le Hamas.
Oui, agriculture et changement climatique, le phénomène El Niño, généralement associé à des précipitations supérieures à la moyenne, se traduit en Côte d'Ivoire par une extrême sécheresse qui n'est pas sans conséquences sur des domaines comme l'agriculture. Là-dessus, les explications de Dr Djekwaku, ingénieur en chef de la météorologie au niveau de la Sodexam.
Le temps est très sec. Et si le temps est très sec, ça veut dire que même les plantes n'arrivent pas à se nourrir, parce que la plante se nourrit de substances du sol à travers la sève, et la sève c'est l'eau. Au niveau économique, on a fait une étude sur les épisodes passés, le phénomène El Niño. Ce qu'on a trouvé comme résultat est que quand il y a le phénomène El Niño, la production de cacao chute de 21 à 27%. Actuellement, la Côte d'Ivoire produit un peu plus de 2 millions de tonnes. Et on applique une chute de 21 à 27%, ce qui fait en moyenne 24%. Maintenant, ce déficit-là, si on traduit ça en argent, si on traduit ça en valeur monétaire, ce sont des milliards et des milliards que les pays pauvres.
Et que faut-il faire dans ce cas-là précisément?
C'est un phénomène climatique. Par contre, on peut chercher à s'adapter. C'est déjà de suivre les informations météo, parce que comme je vous l'ai dit, nous faisons des études sur ces situations-là. Mm-hmm. Donc, à partir des résultats de nos études, on peut suivre le calendrier culturel. C'est-à-dire, au cours de l'année, à quel moment il faut semer, à quel moment, en tout cas, la longueur de la saison culturelle. Mmh. Parce que ce phénomène-là va perturber le début de la saison. Mmh. La saison des pluies, donc de la saison culturelle.
Voilà, c'était Dr Gek Kwaku, ingénieur en chef de la météorologie au niveau de la SODEXAM, qui répondait aux questions de Mata Touré. Dette intérieure à présent, le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, SINAFECI, avance dans le règlement de cette dette avec le gouvernement ivoirien lors d'une réunion tenue mardi dernier entre le syndicat et la direction générale du Trésor. Des factures d'un montant de plus de 35 milliards de francs CFA ont été discutées. Selon le président du SINAFECI, Faustin Gré, le gouvernement montre sa volonté de coopérer, mais l'administration entrave et retarde le processus de paiement. L'écoutons.
Nous avons parlé avec le Trésor des préoccupations et paiements. Les factures qui ne sont pas encore traitées, qui ne sont pas encore auditées, qui ne sont pas encore prises en compte et qui ne sont pas engagées. Et les factures à payer qui sont dans les postes comptables. Le Trésor nous a montré le travail qu'à son niveau, il a pu faire pour ces factures. Mais il faut dire que ce n'est pas encore fini, parce qu'il reste encore des retouches à faire. Donc pour le moment, le silence ici ne peut pas dire il y a tel montant, mais les factures qui concernent les situations de finances, nous sommes pour le moment à plus de 35 milliards de francs CFA que le SINAFECI avait soumis en janvier au gouvernement ivoirien pour le traitement et le paiement de ces factures. C'est la première étape de la concertation. Ils nous ont montré vraiment leur véritable disposition à coopérer avec le SINAFECI. Si ça continue, c'est ce que nous voulons, on ne parlera plus. Parce que l'argent n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Tout ira pour le mieux. Après les trois rencontres, le processus est entamé. Mais nous souhaiterons que vraiment ça soit rapide. Les paiements soient faits dans un bref délai. Sinon, nous voyons la disposition du gouvernement à payer les factures. Il faudrait que la procédure soit accélérée. Donc après cette étape, nous allons rencontrer le DG du Trésor. Mais là encore, vous voyez, c'est l'administration. Pour nous, elle est lourde. Il faut qu'on accélère.
Voilà, Faustin Gré, président du SINAFECI, le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, joint par Christelle Yesso. Les régimes matrimoniaux en Côte d'Ivoire était la thématique au centre de la tribune d'échange hebdomadaire. Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale, le sous-directeur de la législation à la direction des études de la législation et de la documentation du ministère de la Justice. C'est les droits de l'homme. Trabi Boti-Jérôme est revenu sur la dernière année des régimes matrimoniaux en Côte d'Ivoire, à savoir le contrat de mariage. Mata Touré.
Après la communauté de biens en 1964 qui s'est vue réaménagée avec le choix de la séparation de biens intervenue, elle, en 83, voici la troisième option de régime matrimonial en vigueur en Côte d'Ivoire depuis 2019. Il s'agit du contrat de mariage. Relativement plus souple parce que plus conventionnel, afin de donner plus de choix aux futurs mariés, un régime donc au contenu consensuel. Trabi Boti-Jérôme, qui est sous-directeur de la législation au ministère de la Justice, les droits de l'homme, nous explique tout cela.
Il est question ici que deux personnes qui envisagent se marier se mettent d'accord sur la propriété des biens qu'ils ont ou bien qu'ils auront, se mettent d'accord sur qui va payer ou qui va faire face aux charges du ménage, qui va faire face aux dettes.
Et pour ce faire, cette convention doit obligatoirement être passée devant notaire avant la célébration du mariage et les effets commencent à courir le jour J. Toutefois, des amendements sont possibles.
Quel que soit le régime dans lequel vous êtes, si vous devez changer de régime matrimonial, il faut attendre 2 ans de pratique du régime choisi. Et il faudrait que le changement soit dans l'intérêt unique de la famille. Et la demande en changement peut être faite par les 2 époux conjointement ou bien un seul époux peut demander le changement du régime matrimonial.
Et si on n'a pas vraiment de chiffres disponibles sur le nombre de couples ayant choisi cette convention, il n'en demeure pas moins que ce contrat de mariage semble bel et bien faire des émules.
Autre chose dans ce journal, le sport est un facteur d'union. C'est cette maxime dont s'est inspiré le roi de Benoît, de Bouna précisément, Sa Majesté Ngué Ongbiliman, qui a invité les chefs de communauté des quartiers de la ville de Bouna, les chefs de canton et des provinces du royaume du Bonkané pour assister avec la cour à la finale de la CAN 2023 qui opposait la Côte d'Ivoire au Nigeria. L'objectif du roi était de renforcer la cohésion sociale entre les communautés à travers ce match de football. Il en parle, on en parle précisément avec Jérôme Kouassi, notre correspondant à Bouna.
Le motif de cette initiative du roi, Sa Majesté Ngué Ongbiliman, avec Ouattara Lugosina, porte-parole à la cour.
L'occasion pour leur dire merci pour ce qu'ils mènent au quotidien pour que cette région-là puisse connaître une quiétude.
Ces chefs ont été aussi félicités par le roi pour le bon accueil réservé aux réfugiés demandeurs d'asile dans la région.
Et il n'y a pas de problème, nous nous sentons en parfaite harmonie. Même pour cette CAN-là même, une télévision a été donnée pour que ceux-là aussi puissent vivre la CAN avec nous dans ce pays-là.
Il a demandé aux jeunes de célébrer la victoire sans les moto pour éviter les accidents.
Majesté a demandé qu'au moins pour ce match-là, pour éviter qu'on ait d'autres morts alors qu'on veut célébrer une victoire.
Une consigne que comptait bien appliquer le commissaire de police, Kwasi Kona Maxime.
Manifester la joie en marchant, nous allons encadrer jusqu'au petit matin. Mais ce qu'on va prendre avec des engins, véritablement, la loi va s'appliquer à eux.
Sur le match, à la mi-temps, 1-0 pour le Nigeria. Un mot a suffi pour galvaniser la cour.
Espoir. Voilà le message que Sa Majesté a donné à ses chefs-là. De ne pas céder au découragement et que découragement n'est pas ivoirien.
Sur cette invitation atypique, l'avis du chef de la province de Yalo, Nana Bedi Bempe.
Nous, dans le Bunkani, c'est une première que de voir un de nos rois nous inviter à assister à un tel événement. Et c'est le lieu pour nous d'inviter nos pères, rois des autres régions de la Côte d'Ivoire, d'emboîter les pas au roi de Bouna. C'est facteur de cohésion, c'est facteur de convivialité, facteur de paix.
La fête s'est poursuivie dans les quartiers et une fois sans accident de moto. Jérôme Kouassi Kourou de Bouna pour la Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, mardi 20 février dernier, la France a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 actif dans l'est de la République démocratique du Congo, mais surtout Paris a demandé à Kigali de se retirer du territoire congolais. Pour les autorités congolaises, donc, il faut aller un peu plus loin, car les simples déclarations ne suffisent plus. Pour Giscard Kouzema, responsable de la communication présidentielle, il faut des sanctions économiques, comme c'est le cas pour tout État qui va agresser un autre. La diplomatie française assure qu'il n'y a pas de tabou autour de la question des sanctions contre le Rwanda, mais celles-ci ne sont pas au programme pour Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Actuellement, l'Union européenne, les Nations unies et les États-Unis ont mis sous sanction plusieurs responsables du M23, des FLDR et d'autres groupes armés qui sévissent en République démocratique du Congo. À présent, l'invité de la rédaction, l'invité de ce jour n'est autre que Linda Balier. Non, Linda Balier, voilà, toutes mes excuses. Linda Balier reçoit le ministre gouverneur du district Cissé Ibrahim Bakongo qui revient sur la récente opération de déguerpissement à Yopougon-Jesco.
Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous assistons à un déguerpissement de GESCO à la sortie d'Abidjan. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de procéder à ce déguerpissement?
D'abord, ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on a décidé. La décision a été prise depuis longtemps, avant la CAN. Mais il fallait attendre qu'on finisse avec la CAN pour se mettre en branle. Vous savez, la CAN, c'était une très grande occasion de communion, de réconciliation. Dieu merci, elle a tenu toutes ses promesses. Une semaine après la CAN, nous avons décidé de poursuivre les travaux qu'on avait déjà commencés, qu'on avait dû interrompre momentanément. Alors il s'agit ici, dans un premier temps, de sortir nos compatriotes et au-delà de nos compatriotes, toutes les populations de Yopougon qui vivaient dans des conditions de non-vie ici, comme vous le constatez, dans les marécages, dans des habitations qu'on ne pouvait même pas qualifier de précaires, provisoires. Il s'agissait dans un premier temps donc de la sortie de cette situation. Deuxièmement, donner à l'entrée d'Abidjan ou à la sortie d'Abidjan l'image donc qui sied. Tous les étrangers qui sont venus à la faveur donc de cette CAN l'ont constaté, l'ont noté, ont fait des publications partout. à travers le monde pour dire qu'en réalité, Abidjan, ou du moins la Côte d'Ivoire, est très loin de ce que nous-mêmes nous en disons. Et au surplus, nous avons décidé de faire à partir d'ici un port sec. C'est un projet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire un parc logistique à partir duquel vont se faire donc toutes les opérations des véhicules qui arrivent de l'Interland, qui bloquent la circulation dans Abidjan aux heures de pointe. Ces véhicules pourraient transiter donc par le port sec, tout comme ceux qui arrivent d'Abidjan pourraient transiter par là aussi avant de poursuivre leur voie. Et cela va décongestionner la circulation, va soulager l'entrée et la sortie de Yopougon, va créer des emplois parce que ce sont des milliers d'emplois qui vont être créés dans cette zone. Et donc, nous commençons aujourd'hui. On espère que nous allons arriver le plus rapidement possible à terminer ce projet.
On a oui dire qu'après la première étape, il y avait eu un consensus avec le maire de la commune de Yopougon pour que vous serez entendu sur un certain programme. Donc, qu'en est-il? Puisqu'aujourd'hui, il est absent de la Côte d'Ivoire. On a le ministre-gouverneur qui poursuit son action.
Alors, je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à vouloir opposer le ministre-gouverneur au maire de Yopougon, fut-il président de l'Assemblée nationale. Nous avons commencé une opération qui ne concerne pas Yopougon seulement. Au moment où je vous parle, nous sommes à Niamey en train de faire la même chose à Niamey. Donc la présence ou l'absence du maire de Yopougon n'a absolument aucune incidence, aucun impact sur ce que nous faisons. Je comprends bien que lors du lancement de l'opération, il y a eu un peu de frayeur du côté des autorités de Yopougon. Bon, mais nous nous sommes expliqués, j'espère que nous nous sommes compris. Il n'y a absolument aucune raison de penser que c'est parce que le maire de Yopougon est absent que nous avons commencé, mais que nous avons repris les travaux. Donc, je vous dis et je le répète, nous avions arrêté les travaux à cause de la canne.
Et certaines personnes disent ne pas avoir été informées, donc ont été surprises par les bruits des caterpillars.
Non, ceux-là ne sont pas de bonne foi. Il y a 3 semaines, sinon un peu plus, avant le début de la canne, j'étais moi-même sur le terrain ici. Il y a un espace qui est en face qui était en train d'être dégarpi. J'ai demandé à ceux qui sont sur ce côté de s'apprêter dans 2 semaines. Et nous avons dépassé les 2 semaines. Et chaque jour que Dieu fait, je suis ici pour leur rappeler qu'on leur a accordé 2 semaines. J'ai dit bien, cela fait plus de 2 semaines qu'on leur a donné des mises en demeure.
Qu'en est-il du sort de ces riverains-là? Qu'est-ce qui est prévu pour leur relocalisation ou leur dédommagement? En tout cas, si dédommagement il y a.
Ben écoutez, d'abord, je ne sais pas qui ils sont. Pour la plupart des personnes qui sont ici, ce sont des gens qui habitent à l'intérieur du Yopougon, qui avaient ici juste quelques campements. Comme vous les voyez là, c'était juste des fermes que les gens exploitaient ici, pas des habitations en tant que telles. Bon, maintenant, pour celles qui avaient des habitations ici, bon, mais il faut voir à quel titre ces personnes-là étaient ici pour pouvoir ensuite envisager un recasement et des dédommagements. Pour les personnes qui habitaient ici, qui disent être propriétaires, nous attendons donc d'avoir des justificatifs de leur titre avant d'envisager des solutions beaucoup plus vigoureuses pour ces personnes.
Quel est votre message à l'endroit de ces populations, monsieur le ministre-gouverneur?
Le travail que nous ne faisons pas le couteau entre les dents. Nous le faisons la main sur le cœur. Comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Nous voulons sortir ces populations de situations de non-vie pratiquement. Nous leur demandons tout simplement de nous faire confiance et d'attendre pouvoir pour celles que nous pouvons appuyer immédiatement, soit pour trouver un logement immédiatement parce que ce sont des locataires. Nous le faisons sans nous faire prier. Mais sachez tout simplement que ces populations, vous avez pu le constater, ne sont pas donc laissées pour compte. Que ces populations nous fassent confiance. Nous ne sommes pas venus leur enlever le pain de la bouche, les mettre à la rue. Bien au contraire, nous sommes venus pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Mais nous faisons en sorte qu'il y ait le moins de casse possible et le moins de douleur possible.
Vous avez un dernier mot?
Non, c'est moi qui vous remercie. Merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Voilà le ministre, sinon le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, répondait aux questions de Linda Balier dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des titres. Le conseil du coton et de l'anacarde initié en ce moment même dans les zones de production des missions de sensibilisation des acteurs sur l'amélioration et la préservation de la qualité des noix brutes de cajou. Et c'est dans ce sens qu'à Anziré, localité située à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro dans le département d'Atiguakro, que 300 acteurs, producteurs et acheteurs ont été sensibilisés. Une ardoise de plus de 35 milliards de francs CFA, c'est le montant dû aux fournisseurs par l'État de Côte d'Ivoire. Selon le président du SINAFESI, Faustin Gré, le gouvernement montre sa volonté de coopérer, mais l'administration entrave et retarde le processus de paiement. Enfin, dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo salue la position française sur le M23, mais demande des sanctions contre le Rwanda. Tout de suite, la revue de presse avec Mel Amani.
Bonjour à toutes et à tous. Le déguerpissement à Yopougon est l'un des faits